Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Dans le cadre de l'émission Un jour dans l'histoire, nous avons une série assez importante qui propose de se pencher sur les années 1807, 1808 et 1809 de l'Empire de Napoléon Ier. Dans ce cadre, nous découvrons que la noblesse d'Empire a été créée en 1808. Pour découvrir cet univers, nous faisons appel à Jean Tullard, spécialiste de l'époque impériale. Jean Tullard, pourquoi recréer une noblesse sous le Premier Empire ?
Pour une raison évidente, c'est qu'elle avait été supprimée par la Révolution française. Et pourquoi avait-elle été supprimée par la Révolution française ? C'est parce qu'elle était contraire au principe nouveau qui s'affirmait, le principe de l'égalité. La noblesse d'Ancien Régime voyait des privilèges attachés à la condition nobiliaire. D'autre part, cette noblesse, à la veille de la Révolution, s'était fermée. On n'y entrait plus et une réaction nobiliaire réservait toutes les fonctions de l'État et les grandes dignités uniquement aux nobles. Or, il se trouvait qu'il y avait une bourgeoisie d'affaires, une bourgeoisie montante, qui se voyait exclue des sommets de l'État. Donc, cette bourgeoisie qui a fait la Révolution, et permettez-moi de citer le mot fameux de Napoléon, « Qu'est-ce qui a fait la Révolution ?» La vanité, la liberté n'a été qu'un prétexte. Cette bourgeoisie, donc, qui a fait la Révolution, se retrouve donc au pouvoir et se retrouve au pouvoir sous Napoléon. Et évidemment, à partir de ce moment-là, se pose la reconstitution d'une autre noblesse. Napoléon en a besoin. Il en a besoin pour assurer son régime, car la noblesse, c'est le fondement du régime. Alors, il commence par la Légion d'honneur. On oublie que la Légion d'honneur, à l'origine, c'est une légion. C'est une armée avec des officiers, des commandants, des chevaliers. Et donc, cette Légion d'honneur est le premier embryon de la noblesse. Mais malgré sa hiérarchie, cela fonctionne mal pour des raisons d'argent. Et puis, parce qu'il y a des réticences et que ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'avait été la noblesse d'Ancien Régime.
Une partie du personnel de l'Empire est issue de la noblesse d'Ancien Régime, ne serait-ce quelquefois à cause de ses compétences. Est-ce qu'il y a un souci d'amalgame lors de la création de la noblesse d'Empire avec la noblesse d'Ancien Régime ?
Indiscutablement, c'est une réconciliation, c'est l'ouverture à cette bourgeoisie d'affaires, à cette bourgeoisie des Lumières, d'entrer dans une nouvelle noblesse et progressivement va se faire cet amalgame entre ancienne et nouvelle noblesse. C'est l'esprit de réconciliation qui anime le consulat et ensuite l'Empire. Il est bien évident que Napoléon a besoin, encore une fois, d'une noblesse à partir du moment où il a reconstitué une cour et où il a fondé un empire.
C'est un élément d'assise du système, de solidification du système impérial.
Oui, à partir du moment, déjà sous le consulat, il y a une cour embryonnaire. À partir du moment où il y a l'Empire, qu'il y a un empereur, il y a les membres de la famille impériale, car je vous rappelle que l'Empire est héréditaire, même si au moment où nous commençons, il n'y a pas encore d'héritier. Mais il faut donner aux membres de la famille des dignités. Et puis, il y a des gens proches de Napoléon, dans l'entourage de l'empereur, qui doivent être récompensés par des charges. Et c'est à ce moment-là qu'on voit ressurgir toutes les charges de l'Ancien Régime, le connétable, le grand veneur, le grand chambellan,
le grand chancelier,
l'archi-trésorier. Bref, on reconstitue tout ça. Et je vous rappelle que nous sommes à ce moment-là, en 1804, et que la Révolution française était en 1789. Donc, vous voyez, ça va très vite.
Oui, c'est très rapide. Tout à l'heure, vous évoquiez ce désir de la bourgeoisie qui a fait la Révolution d'accéder finalement à une certaine notoriété et à une stabilisation du gain de la Révolution.
Oui, la noblesse, à partir du moment où l'on est entré dans cet ordre reconstitué, vous assure une position sociale. Le problème de cette noblesse, c'est que c'est une noblesse qui récompense des services. Ce qui était le cas, d'ailleurs, de la noblesse d'Ancien Régime, mais ça s'était perdu. Mais donc, Napoléon récompense ceux qui le servent par des titres nobiliaires. Cela commence donc par les grandes charges de la cour, puis ensuite on voit apparaître avec le maréchal Lefebvre qui est fait duc de Danzig un titre inattendu, mais on choisit très habilement parce que Lefebvre était un roturier, c'était un maréchal, c'était un soldat issu de la Révolution, très populaire. Et puis on en fait un duc de Danzig, qu'est-ce que ça veut dire? On ne lui donne pas la ville de Danzig, ce qui a été le cas dans les noblesses d'Ancien Régime. C'est un titre, un cognomen, comme l'on dit dans l'Antiquité romaine, qui rappelle qu'il a réussi le siège de Danzig. Il n'a pas réussi très brillamment, mais enfin passons. Et donc il se retrouve, cette bonne brute, duc de Danzig. À partir du moment où Lefebvre a accepté d'être duc de Danzig, toutes les barrières tombent dans l'armée et dans la société civile.
Oui, il est très symbolique de la réussite de la Révolution, finalement.
C'est ça. C'est si vous songez que son épouse, la maréchale Lefebvre, a donné naissance au personnage de Madame Sangène, qu'elle était blanchisseuse. Vous voyez, elle était blanchisseuse en 89, elle est duchesse de Danzig, disons, dans l'année 1807.
Oui, mais d'un autre côté, parmi les 26 maréchaux d'Empire, il y en aura un certain nombre issu de la noblesse d'Ancien Régime également.
Bien sûr, le premier Napoléon est issu de la petite noblesse, une noblesse douteuse, reconnue, puisque c'est la noblesse, c'est une notabilité corse, mais qui a été assimilée à la noblesse française. Donc, les maréchaux qui entourent Napoléon, Davout, par exemple, ou Berthier, viennent de la petite noblesse d'Ancien Régime.
Les premiers titres et distinctions ont été attribués dès 1804 pour justement reconstituer un certain nombre de charges et puis apporter un certain nombre de distinctions aux gens qui rendent service. Ensuite, il y aura un certain nombre de nominations en 1806 qui bénéficiera notamment aux officiers de l'armée. Et puis finalement, c'est le Senatus Consulte du 1er mars 1808 qui organise la noblesse d'Empire. Quel fut ce travail et est-ce que c'est très structuré et très hiérarchisé ?
Ah oui, une noblesse d'ailleurs est par fonction hiérarchisée. Donc on va voir ressurgir à partir de 1808 dans la noblesse les titres anciens, c'est-à-dire prince, duc, comte, baron, chevalier. Et un titre qui ne réapparaît plus, c'est celui de marquis. Molière l'avait ridiculisé, semble-t-il. On n'a pas voulu ressusciter ce type de marquis. Puis il s'y attachait aussi. Le marquis était non seulement un personnage efféminé, mais les marquis, c'était ceux qui tenaient les marches aux origines de l'Empire carolingien. Donc, Napoléon ne souhaitait pas trop revoir surgir ces anciens marquis. Donc, il y a une hiérarchie qui est créée, mais je vous rappelle que les titres ne sont pas à l'origine héréditaires, c'est la récompense de service. Et que ce que veulent les gens, c'est que les titres soient héréditaires. Nous sommes à l'Institut de France, à l'Académie, et nous souffrons tous, académiciens, de ce que nos fauteuils ne sont pas héréditaires. Alors, Napoléon, qui est un esprit pragmatique et qui est un esprit très, très fin, comprend parfaitement que ça ne suffit pas d'être fait duc ou prince, ou comte si on n'a pas la possibilité de léguer le titre à son fils. Et donc, il crée ce qu'on appelle des majorats. À un titre peut être attaché un majorat, c'est-à-dire un ensemble d'actions ou de terres inaliénables, car la grande peur, c'est que cette noblesse soit ruinée, et d'ailleurs elle le sera, malgré les majorats. Et donc, on y attache des majorats. Donc, à partir du moment où vous avez constitué un majorat, votre titre devient héréditaire. Mais, et j'y insiste parce que beaucoup de gens croient qu'ils descendent de la noblesse d'Empire et c'est pas ça du tout. Le majorat ne peut être accepté que s'il a été soumis au contrôle du conseil du sceau des titres. C'est avec le moment où le conseil du sceau reconnaît le titre de la noblesse d'Empire, que ce titre devient héréditaire et officiel. Avant, c'est un simple décret. C'est pourquoi quand j'ai écrit un livre sur la noblesse d'Empire, certaines personnes m'ont écrit en me disant « Ah, il n'y a pas Thiébault ». Il n'y a pas Thiébault qui a laissé des mémoires extrêmement intéressantes. Enfin, Thiébault, le baron Thiébault, etc. Il n'y est pas. Ben oui, il n'y est pas. Pour la raison fort simple, c'est qu'il n'a eu qu'un décret. Il n'est pas passé devant le Conseil du Sceau. Et il n'est passé que beaucoup plus tardivement sous la monarchie de Juillet. Donc, le malheureux se rattache à la noblesse de la monarchie de Juillet. Cette grande figure de l'épopée impériale ne fait pas partie de la noblesse d'Empire.
Oui, d'ailleurs, ça sera une situation assez courante, puisque beaucoup des anoblis de Bonaparte ensuite adhéreront à la Restauration et auront de nouveau des distinctions. Par exemple, Cambronne, qui est fait baron en 1810, sera également, en plus il cumule puisqu'il aura une épouse anglaise, je crois, et il sera lui-même titré par Louis XVIII. Donc vous avez là une espèce d'effervescence à la fois gouvernementale et titulaire qui est assez étonnante dans l'histoire.
Et oui, et Hugo, par exemple, Victor Hugo, son père est
général.
Napoléon, il est fait comte, mais en Espagne. C'est par le roi Joseph. Donc, Hugo ne va entrer dans la noblesse qu'à partir du moment où il aura été membre de la Chambre des Pairs. Mais avant, malgré son père, il n'est pas reconnu parce qu'il n'est pas passé devant le Conseil du Sceau.
Donc, il y a un double système. C'est un peu comme en Grande-Bretagne, finalement, où certaines personnalités éminentes sont faites sœurs ou dames à titre personnel, mais ne peuvent pas transmettre ce titre. Et puis, il y a la noblesse dite héréditaire. En 1810, Napoléon rétablira les apanages. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a un lien d'ailleurs?
Non, c'est peut-être abusif de parler d'apanages. À l'origine, il y a eu des apanages sous l'Ancien Régime. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que vous avez, dans la noblesse d'Empire, des terres qui vous sont données. Et nous arrivons par les apanages à cette fameuse question de la fortune de la noblesse d'Empire. Car une noblesse ne peut être véritablement noble que si elle tient son rang. Donc elle doit avoir de l'argent. Et donc Napoléon a créé des dotations ou des donations. Il a donné beaucoup d'argent et des terres aux nobles. Et alors, bien entendu, on critique les gens qui ne connaissent pas le sujet, disent c'est abominable, il récompense ses serviteurs, il dilapide les caisses de l'État. Ce n'est pas vrai. L'argent qui est donné aux nobles vient non pas du budget officiel de la France, mais du domaine de l'extraordinaire. C'est-à-dire que Napoléon, lorsqu'il fait des conquêtes, exige des puissances vaincues des rançons, des sommes énormes, qui ne vont pas directement au budget de la France, mais vont au domaine de l'extraordinaire. Et c'est dans ce domaine que Napoléon puise, alors ce sont des terres, c'est de l'argent, et donc il distribue cet argent et ces terres. Alors quand c'est de l'argent, ça va bien. Quand ce sont des terres, ce ne sont pas des terres en France, puisque il n'y a pas de titre français donnant accès à des terres en France. Tout est à l'extérieur. Si Talleyrand a la principauté de Bénévent, c'est en Italie, du côté de Naples. Et donc, les braves dignitaires, je prends par exemple maréchal Ney. Bon, le maréchal Ney, il reçoit des terres en Westphalie, il en reçoit en Pologne, comme ça, il a des domaines. Ah, il a de beaux domaines. L'ennui, c'est que ces domaines sont loin, qu'il doit donc les faire gérer par des intendants. Que, d'autre part, pour l'argent, il faut bien le transférer jusqu'en France. Donc c'est déjà un autre problème et il y a le change. Car le génie de Napoléon, qui a créé une Europe bien supérieure, le Grand Empire, à l'Europe que nous connaissons, est beaucoup mieux tenue. Il y a au moins un exécutif efficace. Eh bien, la faiblesse peut-être de Napoléon, ou sa sagesse, dans ces périodes de crise, on peut s'interroger, c'est de n'avoir pas créé l'euro. Il n'y a pas une monnaie unique. Ce qui fait quand vous avez de l'argent qui vous est attribué en francs Mais que vous allez chercher en Westphalie, en Pologne ou en Italie, il est évident que le change réduit considérablement l'importance de la somme. Ce qui fait que nous n'allons pas pleurer sur les membres de la noblesse d'Empire, nous n'allons pas leur créer une caisse de secours pour aider les plus nécessiteux d'entre eux, non. Mais en fait, les sommes ont été souvent moins considérables qu'on ne l'a dit.
Oui, d'ailleurs, il n'a peut-être pas eu le temps, tout simplement, de créer une monnaie unique.
Oui, il en parle à Sainte-Hélène, mais bon, en tout cas, il n'y a pas de monnaie unique et donc la noblesse d'Empire est beaucoup moins riche qu'on ne pourrait le penser. Et en tout cas, ça ne se fait pas au détriment du contribuable français, qu'on se le dise.
Bien, merci infiniment Jean Tullard pour cet éclairage sur la noblesse d'Empire.